sorte d'arbre. Le premier objet de la tendresse d'Apollon fut Daphné, fille du fleuve Péné. Cette passion ne fut point l'ouvrage de l'aveugle hasard, mais la vengeance de l'amour irrité. Le dieu de Délos, dans l'orgueil de sa victoire, avait vu Cupidon qui tendait avec effort la corde de son arc. « Faible enfant, lui dit-il, que fais-tu de ces armes pesantes? Ce carquois ne sied qu'à l'épaule du dieu qui peut porter des coups certains aux bêtes féroces comme à ses ennemis et qui vient d'abattre sous une grêle de traits ce monstre dont le ventre gonflé de tant de poissons couvrait tant d'arpents de terre. Contente-toi d'allumer avec ton flambeau je ne sais quelle flamme amoureuse et garde-toi bien de prétendre à mes triomphes. » Le fils de Vénus répondit. Apollon, rien n'échappe à tes traits, mais tu n'échapperas pas aux miens. Autant tu l'emportes sur tous les animaux, autant ma gloire est au-dessus de la tienne. Il dit, et frappant la terre de son aile rapide, il s'élève et s'arrête au sommet ombragé du Parnasse. Il tire de son carquois deux flèches dont les effets sont bien différents. L'une inspire l'amour et l'autre le repousse. La première est dorée, sa pointe est aiguë et brillante, la seconde n'est armée que de plomb et sa pointe est émoussée. C'est de ce dernier trait que le dieu atteint la fille de Pénée, c'est de l'autre qu'il blesse Apollon et le perce jusqu'à la moelle des os. Apollon aime aussitôt et Daphné hait jusqu'au nom de son amant. Émule de la chaste Diane, elle aime à s'égarer au fond des bois, à la poursuite des bêtes féroces et à se parer de leurs dépouilles. Un seul bandeau rassemble négligemment ses cheveux épars. Mille amants lui ont offert leur hommage. Elle l'a rejeté, et pleine d'un dédain sauvage pour les hommes qu'elle ne connaît pas encore, elle parcourt les solitudes des forêts, heureuse d'ignorer et l'amour, et l'hymen, et ses nœuds. Souvent son père lui disait « Ma fille, tu me dois un gendre ». Il lui répétait souvent « Ma fille, tu me dois une postérité ». Mais Daphné, repoussant comme un crime la pensée d'allumer les flambeaux de l'hymen, rougissait et la pudeur donnait un nouveau charme à sa beauté. Et suspendue au cou de son père qu'elle enlaçait de ses bras caressants, « Cher auteur de mes jours, disait-elle, permettez-moi de garder toujours ma virginité. Jupiter accorda cette grâce à Diane. » Pénée cède au désir de sa fille. « Inutile victoire! Tes grâces, ô Daphné, s'opposent à tes desseins, et ta beauté résiste à tes vœux. Cependant, Phébus aime. Il a vu Daphné et veut s'unir à elle. Il espère ce qu'il désire, espérance vaine, car son oracle le trompe lui-même. Comme on voit s'embraser le chaume léger après la moisson, comme la flamme consume une haie dont l'imprudent voyageur approche son flambeau ou près de laquelle il le laisse au premier rayon du jour, ainsi s'embrase et se consume le cœur d'Apollon, ainsi il nourrit, en espérant, d'inutiles ardeurs. Il voit les cheveux de la nymphe flotter négligemment sur ses épaules. « Et que serait-ce, dit-il, si l'art les avait arrangés ?» Il voit ses yeux briller comme des astres, il voit sa bouche vermeille, c'est peu que de la voir. Il admire et ses doigts et ses mains et ses bras plus que demi-nus. Et ce que le voile cache à ses yeux, son imagination l'embellit encore. Daphné fuit plus rapide que le vent, et c'est en vain qu'il cherche à la retenir par ses discours. « Nymphe du Péné, je t'en conjure, arrête! Ce n'est pas un ennemi qui te poursuit! Arrête, nymphe, arrête !» La brebis fuit le loup, la biche le lion, et devant l'aigle s'envole la tremblante colombe. Chacun se dérobe à son ennemi. Mais c'est l'amour qui me précipite sur tes traces. Malheureux que je suis, prends garde de tomber, que ces épines cruelles ne blessent pas tes pieds délicats, que je ne sois pas pour toi une cause de douleur. Les sentiers où tu cours sont rudes et difficiles. Ah, de grâce, modère ta vitesse, ralentis ta fuite, et je ralentirai moi-même mon ardeur à te suivre. Connais du moins celui qui t'aime, ce n'est point un sauvage habitant des montagnes, ni un pâtre hideux préposé à la garde des bœufs et des brebis. Imprudente, tu ne sais pas qui tu fuis, tu ne le sais pas et c'est pour cela que tu fuis. Delphes, Claros, Ténédos et Patard obéissent à mes lois. Jupiter est mon père, ma bouche dévoile aux mortels l'avenir, le passé, le présent. Ils me doivent l'art d'unir aux accents de la lyre les accents de la voix. Mes flèches sont sûres de leur coup. Hélas, il en est une plus sûre encore qui m'a percé le cœur. Je suis l'inventeur de la médecine. Le monde m'honore comme un dieu secourable, et la vertu des plantes est sans mystère pour moi. Mais en est-il quelques-unes qui guérissent de l'amour? Mon art, utile à tous les hommes, est hélas impuissant pour moi-même. Il parlait, mais emportée par l'effroi, la fille de Pénée précipite sa fuite et laisse bien loin derrière elle Apollon et ses discours inachevés. Elle fuit, et le dieu lui trouve encore des charmes. Le souffle des vents soulevés à plis légers sa robe entr'ouverte. Zéphyr faisait flotter en arrière ses cheveux épars, et sa grâce s'embellissait de sa légèreté. Lasse de perdre dans les airs de vaines prières, et se laissant emporter par l'amour sur les traces de Daphné, le jeune dieu les suit d'un pas plus rapide. Lorsqu'un chien gaulois découvre un lièvre dans la plaine, on les voit déployer une égale vitesse, l'un pour sa proie, l'autre pour son salut. Le chien vole, comme attaché au pas du lièvre. Il croit déjà le tenir, et le cou tendu, allongé, semble mordre sa trace. Le lièvre, incertain s'il est pris, évite la gueule béante de son ennemi, et il échappe à la dent déjà prête à le saisir. Tel on voit Apollon et Daphné. L'espérance le rend léger, la peur la précipite. Mais soutenu sur les ailes de l'amour, le dieu semble voler. Il poursuit la nymphe sans relâche, et penché sur la fugitive, il est si près de l'atteindre que le souffle de son haleine effleure ses cheveux flottants. Trahie par ses forces, elle pâlit enfin, et succombant à la fatigue d'une course aussi rapide, elle tourne ses regards vers les eaux du Pénée. « S'il est vrai, s'écrie-t-elle, que les fleuves participent à la puissance des dieux, ô mon père, secourez-moi! Et toi que j'ai rendu témoin du funeste pouvoir de mes charmes, terre, ouvre-moi ton sein, ou détruis, en me changeant, cette beauté qui cause mon injure !» À peine elle achevait cette prière que ses membres s'engourdissent. Une écorce légère enveloppe son sein délicat. Ses cheveux verdissent en feuillage, ses bras s'allongent en rameaux, ses pieds naguère si rapides prennent racine et s'attachent à la terre. La cime d'un arbre couronne sa tête. Il ne reste plus d'elle-même que l'éclat de sa beauté passée. Apollon l'aime encore, et pressant de sa main le nouvel arbre, il sent sous l'écorce naissante palpiter le cœur de Daphné. Il embrasse au lieu de ses membres de jeunes rameaux, et couvre l'arbre de baisers que l'arbre semble repousser encore. « Ah ! Dit-il, puisque tu ne peux devenir l'épouse d'Apollon, sois son arbre du moins, que désormais ton feuillage couronne et mes cheveux et ma lyre et mon carquois. Tu seras l'ornement des guerriers du Latium, lorsqu'au milieu des champs de victoire et d'allégresse, le Capitole verra s'avancer leur cortège triomphal. Garde fidèle du palais des Césars, tu couvriras de tes rameaux tutélaires le chêne qui s'élève à la porte de cette auguste demeure. » Et de même que ma longue chevelure, symbole de jeunesse, sera toujours respectée et du fer et des ans, je veux aussi parer ton feuillage d'un printemps éternel. » Il dit, et le laurier, inclinant ses jeunes rameaux, agita doucement sa cime. C'était le signe de tête de Daphné, sensible aux faveurs d'Apollon.